Masrèb Sachim Daf Memvav, et nous commençons à la page précédente, 4 lignes avant la fin, Vechen Linyan Tum'a. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente le din d'un morceau de pâte qui se trouve dans les fentes d'un pétrin, et nous avons vu que par rapport au din, l'interdiction de Balirei ou Balimatsé et l'obligation donc d'enlever ce Hametz, tout dépend s'il y a un Kazaït ou pas. Nous avons expliqué exactement où se trouve ce kazaïd, dans le fond, sur les côtés ou sur les rebords. Mais donc la Mishnah nous avait d'abord donné un premier din. S'il y a un kazaïd, on doit faire biou hametz, enlever ce kazaïd. S'il y a moins qu'un kazaïd, il s'annule et il fait partie maintenant du pétrin. Et donc il est considéré comme un morceau de bois. Et ce n'est plus de la pâte, ce n'est plus du hametz. Et la Mishnah avait terminé en disant, de même les inyan atum'a. Pour les sujets de Tum'a, comme nous allons le voir, la Gemara va nous l'expliquer, mais la Mishnah nous dit « Immakpid alaf chotzetz » que pour Tum'a, tout dépend. S'il est makpid, c'est-à-dire s'il ne veut pas que cette pâte reste à cet endroit, c'est chotzetz, c'est-à-dire ce morceau de pâte fait écran. Donc comme Rashi nous l'avait expliqué au départ, donc on comprend simplement « l'inyana Tum'a », on prend un pétrin et on veut le tremper dans un mikvé. S'il y a chatzitza, c'est-à-dire un morceau de pâte qui fait écran, il faut l'enlever. Donc tout dépend, in makpid, orotse bikyumo. Si makpid alav, il veut l'enlever. Donc à ce moment-là, le morceau de pâte est chotzetz, on ne pourra pas tremper un keli avec ce morceau de pâte. Vim rotse bikyumo, nous avait dit la Mishnah, ici au contraire, il veut que ce morceau de pâte reste sur le pétrin. À ce moment-là, c'est comme une areva, ça fait partie du pétrin et on pourrait tremper le pétrin avec ce morceau de pâte. Le morceau de pâte fait partie maintenant du keli. Donc la Mishnah nous a donné deux dinim. Un premier din concernant biur chametz, de ce morceau de pain qui se trouve, morceau de pâte qui se trouve collé dans les creux du pétrin, et aussi l'inyan tuma pour tremper ce keli dans un mikvé. Seulement la Mishnah, au départ, nous a donné le point, le principe, nous a donné la halakha de kazaït et moins que kazaït. Alors que par la suite, la Gemara, la Mishnah nous dit, pour Tuma, il makpid ou il no makpid, c'est-à-dire s'il veut l'enlever ou il ne veut pas l'enlever. Et pourtant, la Mishnah nous a dit, Vechen, de même, comme si c'était le même din. Et c'est là la question de la Gemara. Vechen, l'inyan Tuma, il makpid à la frotzed, mosebikumo kareva, la Gemara demande, midame, est-ce que le din de Tuma ressemble au din de Biur? Pourtant, atam bishur, atalia milta, là-bas dans le din de Biur, Hamed, ça dépend du shiur, est-ce qu'il y a un kazaït où il y a moins qu'un kazaït, acham, et ici, dans le din de Tuma, la Mishnah nous a dit que ça dépend bekpedat aliyamilta, c'est-à-dire s'il veut l'enlever ou s'il veut laisser ce morceau de pâte sur le pétrin. Donc a priori, on ne comprend plus la Mishnah dit vechen de même, et au contraire, la Mishnah vient faire une différence entre biur chametz et Tuma. Alors la Gemara répond à Rabbi Yehuda, ima velinan atuma enochen. Nous dit Rabbi Yehuda, on n'a qu'à expliquer, l'inyan atuma enochen. C'est-à-dire en vérité, dans la Mishnah, ce n'est pas. Il ne faut pas lire Vechen et Inyan Atuma, mais qu'au contraire, l'Inyan Atuma, c'est différent du din de Biur Chametz. Amar le Abaye, cette réponse ne convient pas à Abaye, puisque Abaye demande Ha Vechen l'Inyan Tuma Katane. Dans la Mishnah, ce n'est pas marqué que l'Inyan Tuma, c'est différent. C'est marqué qu'au contraire, c'est exactement le même din que le Biur Chametz. Et là, Amar Abaye, c'est pour cela qu'Abaye reprend et nous dit Achika Amar, voici l'explication de notre Mishnah. Et nous commençons d'Af Membav, Vechen Leinyan Tsiruf Tum'a. C'est-à-dire, Abaye va expliquer la Sefa de la Mishnah. Il y a deux parties dans cette même Sefa, c'est-à-dire dans la fin de la Mishnah concernant Tum'a. On parle Leinyan Tsiruf, c'est-à-dire, comme la Gemara va expliquer, nous avons moins d'un kabetza d'aliments. Comme nous savons, il faut qu'un aliment ait au moins la quantité d'un œuf pour pouvoir devenir impur ou bien communiquer cette impureté. La chita de Rashi, comme nous l'avons vu plus haut, c'est que pour communiquer l'impureté, un aliment doit avoir au moins le volume d'un kabetza. Donc nous avons un aliment qui fait moins qu'un kabetza, qui fait moins que le volume d'un œuf. Cet aliment a touché le morceau de pâte qui se trouve sur la areva, sur le pétrin. Est-ce qu'on peut associer les deux morceaux et dire que c'est un grand morceau, un morceau qui fait maintenant plus d'un kabetza, ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce morceau de pâte qui se trouve collé dans un creux de la, dans une fente de la areva, fait partie de la areva, donc c'est un morceau du keli, ou bien c'est un aliment? Si c'est un aliment, Donc cet aliment, ce morceau, peut s'associer à l'autre aliment qui est maintenant collé. Et donc la Mishnah vient faire cette différence entre Pessah et les autres jours de l'année. À Pessah, étant donné qu'on a l'obligation de biur hametz, et que lorsqu'il y a, comme nous l'avons vu au début de la Mishnah, un kazaït, il faut faire biur hametz, c'est-à-dire on doit enlever le morceau de pain, le morceau de pâte n'est pas batel, n'est pas annulé, ne s'annule pas au pétrin, et bien dans ce cas-là, s'il y a un kazaït, on pourra dire que le morceau de pâte s'associera à cet aliment qui fait moins d'un kabetza, il formera en tout un aliment de kabetza qui pourra devenir impur ou communiquer l'impureté. Ça, c'est à Pessah. S'il y a moins qu'un kazaï, donc c'est annulé, ça s'annule, la pâte s'annule au pétrin, et à ce moment-là, il ne peut pas s'associer, cette pâte ne peut pas s'associer à cet aliment pour compléter le kabetza. Ça, c'est à Pessah. Béchar, Yimot Hashana. Et le reste de l'année, là continue la Mishnah, nous a dit Kaplukta, il y a une différence entre Makpid et Sheno Makpid, c'est-à-dire ce que la Mishnah nous a dit, le reste de l'année, tout dépend si tu veux laisser ce morceau de pâte dans le pétrin ou pas. Si tu veux le laisser, donc à ce moment-là, il fait partie du pétrin, il ne pourra pas s'associer à cet aliment. Et donc la Gemara nous dit Kegon, Echidame, de quel cas il s'agit, Kegon deika pachot mikabetsan, Ochlim, il y a un morceau, un aliment qui fait moins que le volume d'un œuf. Venagouba et Batsek, et cet aliment a touché cette pâte. Donc on veut associer cet aliment à la pâte et que le tout forme un kabetza pour les dynimes de Touma. Donc Bapetsa, comme nous l'avons dit, Souro, Chashuv, Mitztaref. Étant donné que à Pessah, lorsqu'il y a un kazaït, il y a l'interdiction de posséder du Hametz. Donc le kazaït donne une importance particulière à ce Hametz. On doit l'enlever, puisqu'on doit l'enlever, donc c'est considéré comme de la pâte. Automatiquement, l'inyan touma, ça peut s'associer à l'autre aliment, b'sha'ar yemot hashana, mais le reste de l'année, des bekpeda talimilta, que là tout dépend de l'akpeda, c'est-à-dire est-ce que tu veux le laisser ou pas, alors in makpid alav mitztaref, si tu es makpid, tu ne veux pas le laisser, donc la pâte ne perd pas son statut de pâte, puisque tu dois l'enlever. Ça peut s'associer avec l'aliment, imrotsebikiumo, si tu veux laisser la pâte dans le pétrin. À ce moment-là, la pâte fait partie du pétrin, et donc, areoke areva, c'est comme le pétrin, ça ne peut pas s'associer à l'aliment. Donc là, nous avons une explication de Abaye, vechen l'inyan touma. L'inyan touma, c'est-à-dire associer un aliment à ce morceau de pâte pour avoir la quantité de kabetza. Matkifla rava. Rava n'est pas d'accord, puisque rava dit mikatane mitztaref. Est-ce que dans la Mishnah, c'est marqué Mitztaref, ça s'associe? Au contraire, dans la Mishnah, c'est marqué Vachotzetz Katane. Dans la Mishnah, tout dépend. Si c'est, il est Makpid, c'est Chotzetz. Donc, nous dit Rava et l'Amar Rava, la Mishnah nous parle d'un autre din. Vechen le'alot ta'ara le'areva. En vérité, la question est la suivante. On veut tremper ce pétrin qui est devenu impur, on veut le tremper dans un mikvé. Est-ce qu'on a le droit de le tremper avec ce morceau de pâte? Le morceau de pâte fait peut-être Hatzitsa, écran entre l'eau et le keli. S'il y a sur le keli, comme au moment de Tvilat Kelim, lorsqu'il y a une étiquette, on doit enlever l'étiquette pour tremper le keli, qu'il n'y ait pas d'écran de chatzitza entre le keli et l'eau. Donc de même, on veut rendre pur cet areva. Eridame, kegande itmeach areva. Cet areva est devenu impur. Bailit voulait. Et on veut la tremper dans un mikvé. Donc on veut savoir maintenant, est-ce que ce morceau de pâte forme une chatzitza ou bien il s'annule au pétrin et il fait partie du pétrin? Et là vient la Mishnah nous dire, donc Vechen l'inyan touma, c'est-à-dire pour l'inyan touma à Pessah, on dira la même chose que tout dépend kazaït ou pas. Ben Pessah dit Issour Chashuv Chotzetz, puisque à Pessah, le Issour rend important le morceau de pâte, donc c'est Chotzetz, étant donné que je dois enlever ce morceau de pâte, donc il fait écran avec le pétrin. Velos al kelet vilay, donc ma tvila n'est pas valable tant que je n'ai pas enlevé ce morceau de pâte. Bechari Motashana, le reste de l'année. Puisque le morceau de pâte n'a pas une importance particulière, alors je dirais Bekbeda Talimilta, tout dépend de la Kpeda, c'est-à-dire tout dépend, est-ce que tu veux laisser ce morceau de pâte ici ou pas? Imakpid à la frotzet, veimotse bekumor ou kareva. Si tu es makpid, tu n'en veux pas. Donc à ce moment-là, c'est frotzet, puisque tu as l'intention de l'enlever, donc tu dois l'enlever pour faire tremper, pour tremper le keli au mikvé, vimrotse bekumor ou kareva. Si tu veux le laisser, ça fait partie de la areva et donc tu peux le tremper avec la areva. Donc là encore, nous avons une autre explication de Rava. Nous avons vu dans la Mishnah, par rapport au din de Biur Hametz, tout dépend s'il y a un kazaïd dans ce morceau de pâte ou pas. La Mishnah continue en disant Vechein li inyan tuma, c'est-à-dire à Pessah, si tu veux tremper ce keli et qu'il y a un morceau de pâte, ou dépend si un kazaï, tu dois l'enlever, sinon il s'annule. Et le reste de l'année, donc la Mishnah termine en disant Im makpid o eno makpid. Là encore, Rav Papa n'est pas d'accord avec l'explication de Rav Amatkifle, Rav Papa. Mikatane Vechein li inyan tahara. Nous dit Rav Papa dans la Mishnah, on ne parle pas de tahara, de purifier le keli. Halinyan Tuma Katane, on nous parle de rendre impur le keli. Et là, ma Rav Papa. Et là, nous dit Rav Papa, Vechen Linyan Ori Tuma l'Areva. En vérité, la question, c'est de savoir est-ce que la Arava va devenir impure. Dire, il y a un morceau de pâte qui est collé au pétrin. Eridamek Gande Nagasheretz Bay Batsek. Il y a un reptile mort qui a touché la pâte, mais qui n'a pas touché le pétrin. Donc, on veut savoir est-ce que le pétrin est impur ou pas. Tout dépend. Si la pâte fait partie du pétrin, elle s'annule au pétrin. Donc lorsque le chéretz a touché la pâte, c'est comme si le chéretz a touché le pétrin, il est impur. Si le morceau de pâte est un morceau extérieur, donc le chéretz a touché le morceau de pâte, mais il n'a pas rendu impur le pétrin, et la pâte, qui devient même richonne, ne peut pas rendre impur un keli, comme nous l'avons vu dans la souga de Apraninas Ganakonim du premier Pérec. Donc nous dit Rav Papa, voici l'explication. Kegon Nagasheretz Bay Batsek. Donc on veut savoir, est-ce que ce morceau de pâte fait partie du pétrin ou pas? Eh bien la Mishnah dit Bapesar d'Isoro Chashuv Chotzetz Velonartalatuma. A Pesar, lorsqu'il y a un kazaït, étant donné que ce kazaït est important, eh bien Chotzetz, à ce moment-là, le morceau de pâte fait écran entre le Sheretz et le Keli, et donc le Keli n'est pas impur, puisqu'il ne fait pas partie du keli, donc c'est un morceau extérieur que je dois enlever, que je dois brûler. Donc lorsque le sheretz a touché le morceau de pâte, il n'a pas rendu impur le keli. Velon arta la touma, et la touma ne va pas donc descendre sur ce keli. S'il y a moins qu'un kazaït, étant donné que le morceau de pâte s'annule au keli, dans ce cas-là, on dira que le keli devient impur. Beshaar yemot hashana. Les autres jours de l'année, d'ekpedat aliyam milta. Tout dépend, est-ce qu'il est makpid ou pas? Et tout dépend, est-ce qu'il veut laisser ce morceau de pâte ou pas? Et donc on dira, et makpid ala chotzetz, si tu ne veux pas que ce morceau reste là, donc il est chotzetz, il fait écran. Lorsque le sheretz a touché le morceau de pâte, il n'a pas touché le pétrin. Imrotse bekiyumo, si tu veux laisser le morceau de pâte pour boucher les fentes du pétrin, dans ce cas-là, Aruka Areva, la pâte fait partie de la Areva, et donc le Sheretz qui a touché la pâte, c'est comme si le Sheretz a touché la Areva, et la Areva est impure. Donc la Gemara garde cette dernière explication. Donc, Vechen Leinyan Atuma, on expliquera ainsi, Vechen de même Leinyan Atuma, pendant Pessah, tout dépend Kazaït ou moins que Kazaït. Le reste de l'année, tout dépend s'il est Makbid ou pas. On continue avec la Mishnah suivante, et là nous allons un petit peu dans la source de cette halakha des 18 minutes, qu'à partir de 18 minutes, la pâte devient chametz. C'est ici le mekor, c'est de notre sugya, comme nous allons le voir. Batsek a cheresh, une pâte cheresh. Cheresh qu'on peut traduire, dit Rashi, sourde. C'est-à-dire, une pâte, on ne sait pas si elle est devenue chametz ou pas, si elle a fermenté ou pas. Nous verrons Dafnemchet, hors de Dapim. À partir de quand, c'est-à-dire quels sont les simanimes, les signes qu'une pâte a fermenté. Lorsqu'on ne voit pas ces signes, les signes ne sont pas apparents. Et comme nous dit Rashi, donc la pâte est différente des autres, comme ce cheresh, c'est-à-dire comme un sourd qui a des oreilles, mais on ne sait pas est-ce qu'il entend ou pas. Là aussi, donc on a une pâte devant nous et on ne sait pas si cette pâte a fermenté ou pas. Ou bien, comme l'explique d'autres Rishonim, le Rambam, dire lorsqu'on tape sur la pâte, normalement, lorsqu'on entend un petit son, c'est que la pâte a fermenté. Lorsqu'on n'entend rien, donc c'est sourd, il y a un bruit sourd, il n'y a aucun bruit, là vient la question, est-ce que c'est chametz ou pas? Alors nous dit la Mishnah, Im yesh kayotzebo sheichmitz arezé asur. Si nous avons à côté une pâte qui a été pétrie au même moment et qui a déjà fermenté, qui a déjà les simanim, on dira que c'est assour. Alors la Gemara demande, Imen sham kayutsebo. Lorsqu'il n'y a pas de pâte, je n'ai fait qu'une seule pâte, et je ne sais pas est-ce que cette pâte est devenue chametz ou pas. Mao, quel est le din? Amar Rabbi Avahu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Avahu dit non, Rabbi Shimon Lakish, Kedesh Yelech Adam Migdal Nounia Letveria. Mille. Le temps qu'un homme puisse marcher de cet endroit, Migdal, la tour de Nounia, jusqu'à Tveria, jusqu'à Tibériat, et c'est un mille. C'est-à-dire un mille, le temps de marcher un mille. Si cette patte est restée, le temps de marcher un mille, on considère qu'elle est devenue Hametz. La Gemara demande Venim un mille, pourquoi Rabbi Avahu, Shimon Lakish n'ont pas dit explicitement un mille, pourquoi comme le temps de marcher de Migdal Nounia à Tveria. La Gemara répond à Kamashmala, ils ont voulu nous apprendre que le shiur des mille, c'est que Migdal Nounia va à Tveria, depuis la tour de Nounia jusqu'à Tveria. Donc ici, nous avons la source de ces 18 minutes, puisque d'après beaucoup de Rishonim, le temps de marcher un mille, c'est 18 minutes. Nous avons d'autres chitot, la chita du Rambam, qui est en vérité le mille de 24 minutes, et d'autres encore qui pensent que le mille, c'est 22 minutes et demie. Donc on va être marmir que les matzot vont être fabriqués dans les 18 minutes, bien que Bediavat, comme le rapporte le Mishnah Bura dans le Biur Halakha, peut-être qu'on peut être sommaire sur 22 minutes et demie, comme les autres Rishonim. De plus, dans le Rambam, il y a un chidouche. C'est que le Rambam nous dit une pâte qui a été laissée belli et sec. C'est-à-dire on n'a pas travaillé la pâte. Si on la laisse 18 minutes, à ce moment-là, la pâte va fermenter. Donc le Rambam comprend la Gemara qu'il s'agit d'une pâte ici qui a été laissée de côté. Ce n'est pas une pâte qu'on a travaillée pendant 18 minutes. D'après le Rambam, une pâte qu'on a travaillée pendant même plus de 18 minutes, elle n'est pas Hametz. Elle ne devient Hametz qu'à partir de 18 minutes lorsqu'on a laissé la pâte sans la toucher. D'autres Rishonim pensent que même lorsqu'on travaille la pâte, si on laisse 18 minutes, depuis le moment où on a versé de l'eau dans la farine jusqu'au moment de la cuisson, donc l'armatza peut devenir Hametz. Aujourd'hui, on est marmir et on va essayer de faire le tout dans les 18 minutes, bien qu'on va être donc en train de travailler la pâte. Donc travailler la pâte, bien sûr, c'est travailler entièrement la pâte, bien la pétrir et pas seulement toucher un petit bout de la pâte, comme le précise le Mishnah Bura. La Gemara continue, puisque nous avons rapporté cet enseignement de Rabbi Avahu au nom de Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara en rapporte un autre, qui n'a pas vraiment de rapport avec Maseret Psachim. Ma Rabbi Avahu, ma Rabbi Shimon ben Lakish. Les Gabel, veletfila, veletilat yadaim. Arba milim. Pour le din de les Gabel, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si quelqu'un pétrit des pâtes, son métier, qu'il prend de l'argent pour pétrir la pâte de son ami, de son prochain, et que les kelim du balabait sont impurs, du propriétaire sont impurs, et bien comme nous dit la Gemara, arba milim. S'il y a dans les 4 milim, le temps de marcher, 4 milles, environ plus de près 4 kilomètres, il a des kelim théorim, il se doit d'aller les chercher et ensuite de pétrir dans des kelim purs. Ça c'est le premier din les gabels. Velitfila, nous dit Rashi, si quelqu'un est en chemin, il a un endroit pour passer la nuit. S'il y a un Bet Knesset, donc dans cette ville, il pourra rester. Sinon, s'il n'y a pas de synagogue, il doit même marcher encore, continuer dans sa route 4 milim pour atteindre un endroit où il y a un Bet Knesset et il pourra dormir là-bas, il devra le faire. Et le dernier din, velenetilat yadaim. Si quelqu'un doit manger, il est en chemin, il n'a pas d'eau. S'il a dans les 4 milles de l'eau, il devra marcher pour faire netilat yadaim avant de manger. Amar Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Nachman bar Yitzhak rajoute et dit, Eibo Amra. Ce n'est pas Rabbi Avo au nom de Rabbi Shimon ben Lakish qui l'a dit, mais c'est Eibo qui a dit au nom de Resh Lakish. Et en vérité, il n'a pas dit trois choses, mais quatre choses. Amarba. Vechada minayu, la quatrième chose, c'est-à-dire le quatrième din sur lequel les chachamim, je mets le cas de Arba Milim, c'est Avoud. C'est-à-dire, nous explique Rashi, nous avons des peaux qui sont marquées dans Maseret Choulin, des peaux, étant donné que la peau est tendre comme la chair, la peau est aussi impure comme la chair. À partir de quand? Lorsqu'on a travaillé la peau va donc perdre son statut de peau qui est comme de la chair, comme du bassin, et ne communiquera plus l'impureté. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah d'Itnan, Vekulan, toutes les peaux tendres, qui ont le même statut que de la viande. Chez Ibdan, elles ont été travaillées. Au Sheilar Baem Kede Avoda, ou bien il a marché dessus Kede Avoda, le temps d'un travail, c'est-à-dire Arba Milim, nous allons voir. Théorim, les peaux deviennent pures. Chutz Meor Adam, à l'exception de la peau de l'homme. Là, la Gemara dit que la peau de l'homme restera tout le temps impure, de peur, comme la Gemara l'explique, qu'un homme risque de prendre ensuite la peau de ses parents et d'en faire un tapis, comme la Gemara l'explique. Donc les Chachamim m'ont dit, on laisse la peau de l'homme restera tout le temps impure. Quelqu'un peut, à cause de cette impureté, être freiné et ne pas utiliser, chas v'shalom, la peau de ses parents pour faire un tapis. Donc, la Mishnah nous dit, lorsqu'on a travaillé la peau, donc la peau de bête tendre, ou bien on a marché dessus, kede avoda, et là nous dit l'agma, amar rabbi yabo, amar rabbi yanaï, c'est quoi kama kede avoda, amar rabbi, nous avons plusieurs girsot, amar rabbi yabo, amar rabbi yanaï, kede ilouch arba milim, le temps de marcher 4000. Donc si on a marché sur les peaux, comme le dit Rashi, on les a mis à un endroit où les gens vont piétiner, puisque c'était ainsi qu'on tannait les peaux au départ. De quoi marcher Arba Milim, à ce moment-là, la peau perd son statut de chair et elle ne communiquera plus l'impureté. La Gemara continue et nous dit « Amar Abiyose Brapranina, Loshanu » ce que nous avons enseigné au sujet de Netilat Shadaim et de Tfila, nous dit Rashi, c'est-à-dire si on est en chemin et qu'on n'a pas d'eau, pour Netilat Shadaim, où on cherche une synagogue pour prier, et qu'on a devant nous, dans les 4000, une synagogue ou bien de l'eau où on devra se déplacer, ceci n'a été dit « Elalefanav », c'est-à-dire lorsque c'est dans la direction du chemin que cet homme a entrepris. « Aval l'achorav », mais s'il doit revenir sur ses pas, « Afilum mil », même s'il n'a qu'un mil à reprendre, à retourner, à marcher sur ses pas, « Enochoser », il ne rentrera pas, il n'est pas obligé. Donc, il sera millionné, puisque de toutes les manières, il va dans cette direction. S'il a, même à 4000 plus loin, il doit faire le déplacement. Amar Ravacha, et Ravacha nous dit, ou Mina, mais de cet enseignement, on peut aussi déduire que mille ou deino choser, apachot mi mille choser, c'est-à-dire seulement lorsqu'il a donc de l'eau à 1000, donc en aille sur ses pas, là, il n'a pas besoin de revenir sur ses pas. Mais s'il a moins qu'un mille, il devra revenir sur ses pas. Ça, c'est au moins ce qu'on peut déduire, nous dit Ravacha. On continue avec la Mishnah suivante, où la Mishnah nous dit quel est le din de quelqu'un qui pétrit de la pâte, de la matzah pendant Pessah, et qui doit prélever la challah. Si c'est Yom Tov, et que Yom Tov il a le droit de pétrir de la pâte pour faire des matzot pendant Yom Tov de Pessah, il faudra donc prendre cette challah et ne pas la laisser fermenter, ne pas la laisser devenir chametz. Il faudra la brûler, c'est-à-dire la faire cuire, la brûler, la faire cuire, la donner au Kohen, ou la brûler avant. Mais lorsque cette challah est impure, donc nous dit la Mishnah, Ketzad mafrishim challah betuma b'yom tov. Comment va-t-on prélever la challah, une challah impure, à Yom Tov? Puisque pendant Yom Tov, nous explique Rashi, la challah qui est impure ne peut pas être mangée par un Kohen. On ne peut pas non plus la cuire, puisque c'est Yom Tov, et Yom Tov, on n'a pas le droit de cuire une pâte qu'on n'a pas le droit de manger. La laisser et la brûler le soir, nous dit Rashi, donc après Yom Tov, la pâte deviendra chametz, et on va donc transgresser Balire ou Balimatze. La brûler immédiatement, donc ne pas la faire cuire, mais la brûler immédiatement, on l'a donnée à un chien. Là aussi, nous avons une règle, Ensorfim Kodashim Beyom Tov, on ne brûle pas de Kodashim, donc de Teruma, Chala pendant Yom Tov. Donc comment va-t-on prélever de la Chala si la pâte est impure Beyom Tov? Rabbi Lezer Omer, Rabbi Lezer dit, Lotikra Lachem Achteafe. Il ne faudra pas la nommer, c'est-à-dire on ne va pas prélever de Chala, Achteafe, jusqu'à ce qu'on ait fait cuire le tout. C'est-à-dire on va d'abord faire cuire la pâte, on a fait cuire les petits pains, et ensuite on prélèvera la Chala. Quel est l'avantage de Rabbi Lezer? C'est que, au départ, j'ai le droit de tout faire cuire, puisque je peux peut-être prendre la challah de chaque petit pain. Et donc, chaque petit pain, je peux le manger. Donc, j'ai le droit de le faire cuire pendant Yom Tov. Et ensuite, une fois que les petits pains sont cuits, je pourrais, même si je veux prélever un petit pain et le donner. Donc, le considérer comme chala. Ça, c'est le din de Rabbi Lezer. Donc, je ne nommerai la chala chala, je ne la prélèverai que une fois la matza déjà cuite. Donc, c'est sûr que ça ne deviendra pas chametz. Et j'ai le droit de faire cuire ces matzot, puisque tant que je n'ai pas pris la chala, je peux dire que chaque petit pain, en vérité, est pour moi et je vais le consommer. Ben Betera Omer Tatil Betzonen. Ben Betera n'est pas d'accord, il nous dit Tatil Betzonen, il faudra Tatil Betzonen, c'est-à-dire mettre dans de l'eau froide. Mettre la pâte dans de l'eau froide et ainsi on ne laissera pas la pâte fermenter. Amar Rabbi Yeshua nous dit, nous tournons la page, Lozeu Chametz Shemuzari Malav Balireo Balimatze. Nous dit Rabbi Yeshua, ce Chametz, c'est-à-dire la Chala, nous n'avons pas le Chiyuv, l'interdiction. Donc le chiyuv de l'enlever de notre domaine, nous n'avons pas l'interdiction de posséder ce chametz. Ce chametz ne m'appartient pas. Dès que j'ai donc prélevé la chala, cette chala rentre dans le klal que nous avons vu dans le premier perek, lo yirei lecha, c'est-à-dire shelcha, ce qui t'appartient, tu as l'interdiction de voir, de posséder pendant Pessah. Et ceci ne t'appartient pas, n'appartient encore à personne, puisqu'aucun Kohen ne l'a encore reçu. Donc, j'ai le droit, d'après Rabbi Yeshua, de prélever la chala, et la mafrichata, ou manichata, et je laisse la pâte à daerev jusqu'au soir, vim ichmitza ichmitza. Et si la pâte est devenue chametz à fermenter, c'est pas grave, je n'ai pas transgressé, puisque cette chala ne m'appartient pas. La Gemara continue et nous dit, on n'a qu'à expliquer que la machloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yeshua, à savoir est-ce que j'ai un chiyuv balira ou balimatse sur cette chala ou pas, dépend de cette dîne-là de Tovatana. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un Israël qui prélève la chala doit donner la chala au Kohen. Un Israël qui prélève de la terouma doit donner la terouma au Kohen. Seulement, le Israël a le droit d'avoir un certain profit de cette chala et de cette terouma. Réhouven peut prendre de l'argent, un sela, nous dit Rashi. Se tourner vers Shimon et lui dire, tu sais Shimon, je te donne un sela. Et toute terouma que tu auras, tu donneras à mon petit-fils qui est Kohen. Ma fille s'est mariée avec un Kohen. Je veux que mon petit-fils profite de cette terouma. Donc je te donne de l'argent. Et toi, toutes tes terumotes, tu choisiras mon petit-fils plutôt qu'un autre Kohen. Shimon a de la teruma qui ne lui appartient pas, puisqu'il est obligé de la donner au Kohen. Mais malgré tout, il y a un certain profit que Shimon peut en tirer grâce à cette teruma. Il peut avoir la tovatana, c'est-à-dire recevoir de l'argent pour la donner à qui il voudra. Un Israël a le droit de donner de la teruma à n'importe quel Kohen, au Kohen qu'il préfère. Donc ici, nous dit la Gemara, c'est peut-être là la machloquette. Rabbi Lezer savar tovatana mamon. Rabbi Lezer considère que la tovatana que Shimon a sur cette chala, parce que Shimon peut en tirer un certain profit, ceci est considéré comme de l'argent, comme du mamon. Et donc, la chala, on peut dire que cette chala lui appartient en partie, et donc il est chayav. C'est pour cela que Rabbi Lezer dans la Mishnah cherche un moyen de ne pas rendre la chala chametz. Alors que Rabbi Yeshua savar, Tovatana et Namamon. La Tovatana, c'est vrai que le Israël peut en profiter, mais ceci n'est pas considéré comme de l'argent, au point que cette chala lui appartient. Je veux dire, cette chala, il y a quand même là une petite appartenance, il a une ana'a, un profit de cette chala, et donc d'après Rabbi Yeshua, il ne transgresse pas Balirahu Balimatse. Ça, c'est la première proposition de l'agma. L'agma radilo, on peut dire qu'en vérité, des koulalma savre tovatana et namamon. Tous les deux sont d'accord que tovatana et namamon. Ceci n'est pas considéré comme si j'ai une propriété sur la chala, sur la terouma, même si je peux en tirer un quelconque profit, même si je peux gagner de l'argent grâce à cette terouma ou cette chala que je dois donner au Kohen. Et donc, c'est vrai que je ne devrais pas être chayav balira ou balimatse, comme nous dit Rabbi Yeshua. Seulement, nous explique la Gemara, ha be'oil kamifligé. Ici, leur machloket, c'est le oil. C'est-à-dire ce principe puisque. Oil signifie puisque. Puisqu'on peut. C'est-à-dire, oil, De Rablezer Savar, Rablezer dit Amrinan oil veba'et shilala mamoneu. Nous avons une règle, un principe, que toute terouma, toute chala que j'ai prélevée, comme tout Ekdesh, j'ai la possibilité de changer d'avis, d'aller chez un rav et de faire une sorte de Atarat Nedarim, et donc de récupérer ma chala, et ensuite, bien sûr, de reprendre, prélever la chala, même sur un autre pain. Donc ce pain que j'ai, ou ce morceau de pâte que j'ai désigné en tant que chala, ou en tant que terouma, j'ai la possibilité de le récupérer et de le garder pour moi-même, grâce à cette sorte de Atarat Nedarim. Donc ici, la marloquette est la suivante. Rabbi Eliezer pense que, puisque Oil, Vibai, Chilala, puisque tu peux aller faire une Sheila, Shera fait une sorte de Atarat Nedarim, donc cette Chala, Mamoneu, est considérée comme si elle t'appartient. Et donc tu es ouvert sur Baliro Balimatse. C'est vrai que maintenant, lorsque tu as prélevé la Chala ne t'appartient pas, elle appartient à un Kohen. À quel Kohen? Au Kohen que tu choisiras par la suite. Donc maintenant, personne ne devrait transgresser Baliro Balimatse. Moi-même, je ne transgresse pas puisque la Chala ne m'appartient pas. Le Kohen, je n'ai encore donné à aucun Kohen. Malgré tout, nous dit Rabbi Eliezer, puisque j'ai la possibilité de récupérer cette Chala, faisant Atarat Nedarim, donc c'est considéré comme mon argent, et je ne dois pas laisser la Chala devenir Hametz, comme le pense Rabbi Eliezer, donc il faudra faire cuire la Chala d'abord. Rabbi Yehoshua Savar, lo amrina noel Rabbi Yehoshua dit, on ne dit pas ce principe de Oïl. D'ailleurs, la Gemara va continuer dans cette Machloket. Itmar, nous avons une Memra. Aofe miyom tov lechol. Ce principe de Oïl que nous avons vu, la Gemara va le reprendre au sujet d'une autre Machloket entre Rav Chisda et Rabba, à propos d'un tout autre sujet. Aofe miyom tov lechol. Nous avons une Memra. Si quelqu'un fait cuire mi yom tov d'un jour de yom tov l'échol pour le lendemain pour chol. Yom tov tombe un lundi, il fait cuire des aliments, du pain yom tov pour le lendemain pour mardi. Yom tov, on a le droit de cuisiner, on a le droit de faire cuire du pain, des aliments, mais seulement pour yom tov lui-même. Pour le lendemain, est-ce qu'on a le droit ou pas? Rav Chisda amar loke. Rav Chisda dit, donc on n'a pas le droit. Et si tu transgresses, tu recevras un malkout comme si tu as transgressé Yom Tov. Rabba Amar en Oloke, mais Rabba dit non, il n'y a pas de malkout. Rav Chisda Amar Loke. Pourquoi Rav Chisda nous dit qu'il n'y a pas, qu'il y a malkout? Parce que Rav Chisda dit, Lo amrina noil u miklele ochim chazele. On ne dira pas, hein, peut-être que, après ton repas de midi de Yom Tov, peut-être que tu risques d'avoir encore d'autres invités, et que ces invités, donc, devront manger. Donc, ce que tu cuisines maintenant, on pourrait dire, tiens, je ne le cuisine pas pour demain mardi, mais pour aujourd'hui, peut-être que des invités viendront encore. Donc, Rav Chisda n'accepte pas le principe de Oil, puisque si des invités viennent, effectivement, les invités pourront en profiter. Mais là, les invités ne sont pas venus, eh bien, on ne dira pas Oil. Rabba Amar Enoloke, Rabba dit, Enoloke, il n'y a pas de malkout. Pourquoi Amrinan Oil? On va dire Oil. Étant donné que peut-être des invités viendront, et que si des invités viennent, ils trouveront un repas prêt, donc j'ai le droit maintenant de cuisiner pour eux, il n'y a pas de malkout, c'est ce que pense Rabba. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabba et Rav Chisda concernant le principe de Oil. Est-ce qu'on dit Oil? Peut-être que des invités viendront pendant Yom Tov et des invités trouveront un repas prêt. Est-ce que j'ai le droit pour cela de cuisiner ou pas? Est-ce qu'il y a une transgression de Yom Tov ou pas? C'est la marloquette entre Rav Chisda et Rabba. La Gemara continue à marler Rabba et Rav Chisda. Rabba, qui pense qu'on peut dire le principe de Oil, pose la question suivante à Rav Chisda. L'éditra, d'après toi, D'amarta lo amrinan oil. D'après toi, on ne dit pas oil. Alors j'ai une question. Et achofim yom tov le Shabbat. Comment on peut cuisiner de yom tov pour Shabbat? Lorsque yom tov tombe un vendredi, on a le droit de cuisiner yom tov pour Shabbat, vendredi pour Shabbat. Encore d'après moi, dit Rabba, puisqu'il y a le principe de oil, puisque peut-être yom tov après-midi, des invités pourront peut-être venir et profiter de ce repas. Donc j'ai le droit de cuisiner. Mais d'après toi, Rav Chisda, puisqu'il n'y a pas le principe d'oil, donc comment avons-nous le droit de cuisiner vendredi Yom Tov pour Shabbat? À Marley, il lui a répondu, Mishum Eruvé Tavshilin, c'est simple, on fait le Eruv Tavshilin. Le Eruv Tavshilin, c'est deux plats qu'on prépare avant Yom Tov comme repas de Shabbat. Grâce au Hirouf Tafshilim, nous savons tous qu'on a le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Alors la Gemara demande au Mishum Hirouve Tafshin Sharina Nesura de Oraita, s'il y a une interdiction de la Torah de cuisiner Yom Tov pour le lendemain et qu'on ne va pas emprunter cette notion de Oil. Donc tu n'as pas, après ton repas de Yom Tov, la possibilité de cuisiner pour le lendemain, puisqu'on ne dira pas peut-être que des Ohrim viendront. Donc il y a une interdiction de la Torah. En quoi le Hirouf Tafshilin repoussera une interdiction de la Torah? Amardé, il lui a dit non. En vérité, midoraita mina Torah, tzorke Shabbat nasim bi Yom Tov. Les besoins de Shabbat peuvent se faire Yom Tov. C'est-à-dire, j'ai le droit, mina Torah, de cuisiner vendredi, même si vendredi est Yom Tov pour Shabbat. Seulement, Rabbanan o degazroube gzera. Les Chachamim ont fait une gzera. Rashi nous rapporte un pasouk, c'est marqué « Ah, Hashem yachel lechol nefesh ». Étant donné que Shabbat et Yom Tov, c'est une seule kedusha, donc tu as le droit, Shabbat de Yom Tov, de cuisiner pour Shabbat. Shabbat, bien sûr, on n'a pas le droit de cuisiner, mais Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour Shabbat. C'est la même kedusha, tu as le droit. Seulement, Rabbanan ou Degazroubé, les Chachamim ont fait une gzera, ont interdit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Pourquoi ? Gzera shema yomo, fim yom tom avrechol. Peut-être que les gens par la suite vont se tromper, ils vont penser qu'on peut cuisiner même yom tov pour chol. Lorsque yom tov tombe un lundi, ils vont cuisiner pour le mardi. Donc ce n'est qu'une interdiction en midi rabbanan. Vekevan datzru rabbanan iruve tafshinin itle ekera. Puisque les Chachamim ont fait un iruve tafshinin, donc il y a un eker. Donc étant donné qu'on va faire un Hirouf Tafshilin, c'est-à-dire on va préparer des aliments pour Shabbat, donc cette préparation est comme un signe, un équerre, un signe de reconnaissance pour savoir qu'il y a une différence entre aujourd'hui qui est vendredi, donc je prépare pour Shabbat, et qu'un autre jour je n'ai pas le droit de préparer Yom Tov pour Yom Chol. Donc tout le principe de Hirouf Tafshilin vient simplement enlever une interdiction midirabanan. Les Chachamim ont eu peur, on risque de se tromper entre vendredi, lorsque Yom Tov tombe vendredi, lorsque Yom Tov tombe lundi. Bien, grâce au Hirouf Tafshilim, il y a ce équerre et on ne se trompera pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous explique Rashi, le Hirouf Tafshilim est appelé Hirouf Tafshilim par rapport au dinim de Hirouvé, Chatzerot, Hirouvé que nous avons vu dans Maserhet Hirouvim. Puisque le principe du Hérouf, c'est de mettre un signe, un équerre, pour faire la différence entre ce qui est un domaine public et ce qui est un domaine privé. Donc on ne se trompe pas, on peut venir se tromper entre un khatser et le domaine public. Donc là aussi, on retrouve le même équerre, et c'est pour cela que ceci s'appelle Hérouf Tafshilin, donc qui est emprunté du Hérouf Khatserot de Hérouvin. La Gemara continue avec une autre question, étivée. C'est marqué... Béma mesukenet lo ishrot. Une bête, une béma, qui est en danger de mourir, elle risque de mourir. Lo ishrot, on n'a pas le droit un jour de Yom Tov de lui faire la shrita. Et la kedesh yachol lechol aimena kazaït slim ibeodium. Sauf si tu peux encore manger au moins un kazaït de viande grillée. C'est-à-dire, nous dire, Rashi, c'est le moyen le plus rapide pour manger de la viande. Mibeodium, c'est-à-dire pendant Yom Tov, avant la tombée de la nuit. Donc la Gemara dit, yachol lechol afalgav de lo baile mechel. La Braïta nous dit, si tu peux manger, même si tu ne vas pas en manger, mais puisque tu peux manger, c'est-à-dire tu as le temps de te préparer un morceau de viande, tu as le droit d'égorger une bête mesoukenet pendant Yom Tov. Donc Bishlama Lididi, encore d'après moi, dire d'après moi, Rabba qui pense, d'Amré Oil, on a le principe de Oil. Donc je vais dire Oil, puisque Veiba el Mechal Matseachil, puisque s'il veut en consommer, il peut manger de cette viande. Mishumachi Ishrod, donc c'est pour cela qu'on lui permet d'égorger la bête. Et là, l'éditra, mais d'après toi, d'Amartal lo Amrinan Oil, on ne dit pas Oil. Donc à Maishrod, pourquoi va-t-on égorger cette bête? Amarle, il lui a dit Mishum Efsed Mamono, parce qu'il a une perte. La bête risque de mourir, ensuite elle deviendra Nevela, il va perdre tout. La Gemara demande Mishum Efsed Mamono, Sharina Nesore Doraita, parce qu'il a une perte, on lui permet une interdiction de la Torah. Amarle In, il lui a dit oui, en vérité, voici l'explication. Mishum Efsed Mamono, Gamar Belibo Lechol Kazait. En vérité, ce n'est pas que Mishum Efsed Mamon, je permets, mais puisqu'il y a un Efsed Mamon, il va se forcer, lui, à manger un Kazait. Et donc, qui Efchar le Kazait Basab Loshrita, puisque je ne peux pas manger un kazaït d'une bête sans l'avoir égorgé. Donc grâce à ce kazaït, j'ai le droit d'égorger toute la bête. Mais bien évidemment, on parle dans le cas où je vais manger ce kazaït C'est-à-dire, on n'a pas le principe de Ohil puisque, mais si je vais vraiment en manger, et à cause de cette mammon, c'est sûr que le propriétaire va en manger, donc c'est pour cela qu'on a le droit de faire la shrita d'une Behema Mesukene. On va s'arrêter ici pour ce daf-là.